Alors, on va lire ensemble, si vous voulez bien, Actes 2, versets 1 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du feu, du sang et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc on est ici avec le récit de la Pentecôte et on peut dire qu'il y a 2000 ans, il s'est produit une chose qui est merveilleuse, vraiment merveilleuse. Jésus était remonté au ciel, il avait laissé ses disciples qui étaient seuls, mais il leur avait fait la promesse qu'ils ne resteraient pas seuls. Alors ils étaient réunis, 120 personnes dans une chambre haute, et là la bénédiction de Dieu descend sur eux, l'Esprit descend d'en haut et vient les baptiser. Ils ont été baptisés dans l'Esprit, immergés dans l'Esprit. C'est là, avec un grand L, la bénédiction de Dieu pour eux. Tous reçurent le Saint-Esprit dans leur cœur. L'Esprit est entré en eux, il est venu faire sa demeure en eux parce qu'ils avaient cru en Jésus-Christ qui était mort pour leur péché. Et depuis ce jour, on peut dire que ce miracle, il se produit sans cesse. À chaque fois qu'un homme ou une femme se repent et croit en Jésus-Christ mort pour lui ou pour elle, à ce moment-là, l'Esprit descend et vient habiter dans son cœur. C'est une promesse que Dieu a faite. En Jean 14, 16, je vous lis ce verset. Jésus a dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur que moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le monde ne voit pas l'Esprit de Dieu, il ne le connaît point et de ce fait, il ne peut pas le recevoir. Mais ceux qui croient le reçoivent parce qu'il vient habiter dans leur cœur. Alors ils le connaissent, ils ont une communion avec lui, au travers de lui. Dieu nous a fait un don merveilleux, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Ça veut dire que nous ne sommes plus seuls. Maintenant, il est toujours avec nous. Si on l'a reçu, il est vraiment, il est là en nous. Et tous ceux qui l'ont reçu vous diront, mais je sais qu'il est là. Il me l'a montré. Son esprit l'Esprit de Dieu a témoigné à mon esprit humain, que je suis enfant de Dieu et qu'il est là. Il me le montre chaque jour. Peut-être il faut se poser la question, est-ce que je connais personnellement l'Esprit de Dieu? Est-ce que je l'ai reçu dans mon cœur? Il est là, je le sais, il me l'a montré, il en a témoigné à mon esprit. Et maintenant, j'ai une relation, j'ai une communion avec lui. Si vous ne pouvez pas répondre oui à ces questions, si vous n'êtes pas sûr, alors probablement, vous ne l'avez pas encore reçu. Il est dit dans les Écritures, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas encore, sous-entendu. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Se repentir, demander pardon pour ses péchés, croire en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, eh bien, il vient et il habite, il vient habiter dans notre cœur. Simplement un acte de foi accompagné d'une repentance qui est sincère, d'une foi qui est authentique et il nous sauve. Lorsque Jésus-Christ, lorsque l'Église de Jésus-Christ a été baptisée dans l'Esprit à la Pentecôte, cela veut dire qu'elle a été immergée, elle a été plongée. On imagine que l'Esprit remplissait cette chambre haute, là il était partout. Et même jusque dans leur cœur, puisqu'il est descendu en eux, ils étaient plongés dans l'Esprit. C'est le terme même de baptiser, donc plonger, immerger. Et quand une personne croit en Jésus-Christ, elle est associée à l'Église qui a été immergée, qui a été baptisée du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. Donc quand quelqu'un croit, il est intégré à l'Église et immédiatement il est lui aussi baptisé, il reçoit l'Esprit, c'est automatique. Alors on peut se demander, mais est-ce qu'on va recevoir une langue de feu qui va descendre sur la tête? Mais le Seigneur ne fait pas toujours les choses de la même manière. Et d'ailleurs, on voit que les croyants ensuite, dans les Actes des Apôtres, vont être aussi baptisés de l'Esprit, ils vont aussi recevoir l'Esprit, mais ils ne vont pas pour autant avoir une langue de feu qui descend sur leur tête. Et puis, quand on voit cette langue de feu, donc des langues semblables à des langues de feu, derrière le feu, il y a aussi la pensée du jugement, d'un jugement. Quand vous prenez la référence au feu dans les Écritures et vous regardez toutes les Écritures, vous voyez qu'à chaque fois, eh bien, il y a quelque chose concernant le jugement. Prenez par exemple le feu qui tombe sur Sodome et Gomorre. C'est clair, c'est un jugement. Prenez le sacrifice qui est mis sur l'autel, l'Holocauste. Mais c'est le feu qui tombe sur la bête qui était sacrifiée. Elle subissait la condamnation pour l'homme pécheur. Prenez le feu qui descendit du ciel sur les 50 hommes avec le prophète Élie. Condamnation, jugement. Prenez le feu du tribunal de Christ. Qu'est-ce que c'est ? C'est le jugement sur les œuvres charnelles. Elles sont brûlées, elles sont consumées, jugement. Il est aussi dit que Dieu est un feu dévorant, pour dire il faut faire attention. Et puis bien sûr, le feu de l'enfer, le feu horrible de l'enfer. Et le feu dans la Bible est lié au jugement. Et dans ce passage de la Pentecôte, il y a aussi l'idée d'un jugement. Pourquoi ? Parce qu'on est au début du livre des Actes des Apôtres. C'est le moment d'une grande transition ici, puisqu'on passe de l'ancienne, on entre vraiment dans la nouvelle. Et jusqu'à son départ, Jésus avait lui-même, et il avait encouragé ses disciples, à s'occuper de la nation d'Israël. Il ne devait s'occuper que des Juifs, aller vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Et leur annoncer donc la bonne nouvelle du royaume. Mais une fois que Jésus a été crucifié, une fois qu'il a été enseveli, une fois qu'il est ressuscité, alors là, le discours commence à changer. Maintenant, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tournez-vous vers les nations maintenant. Pendant que Jésus était là pour Israël. Mais comme dit Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Le Messie a été rejeté par son propre peuple. Ils l'ont mené jusqu'à la mort, ils l'ont fait crucifier. Et tout en laissant les Juifs libres de leur choix, Dieu avait prévu, il avait anticipé que dans leur rejet du Messie, alors eh bien, ils se tourneraient vers les nations, vers les païens. Et il les sauverait. Mais néanmoins, ce rejet du Messie a entraîné un jugement sur les Juifs. Ce peuple choisi devait normalement être la lumière des nations et soudain, parce qu'il n'a pas cru au Messie, eh bien, il a été mis de côté. La Bible dit qu'ils ont été retranchés. Et on le voit dans le changement de discours de Jésus. Maintenant, allez vers les nations. Le temps des Juifs est fini. Maintenant, c'est le temps des nations. Allez évangéliser les nations. Mais comment faire comprendre cela à un peuple qui avait traversé la mer Rouge, à un peuple qui avait reçu les lois, les tables de la loi, une première fois avec le écrit du doigt de Dieu, à un peuple qui avait été conduit, qui avait été béni, qui avait été éclairé par le Créateur des cieux et de la terre? Comment leur faire comprendre que maintenant c'est terminé, Dieu se tourne vers les nations païennes? Regardez 1 Corinthiens 14, versets 20 et 21. Il dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi « C'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. » Ici, on est en 1 Corinthiens, chapitre 14, c'est un des chapitres, si ce n'est pas le chapitre, qui explique vraiment ce qu'est le don des langues, le don du parler en langue. Et dans ce message, ici, dans ce verset, il dit à deux reprises le mot « jugement ». Paul dit « Ne soyez pas enfants sous le rapport du jugement ». Et encore, à l'égard du jugement, « Soyez des hommes faits ». Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire mais comprenez le jugement. Comprenez qu'il y a un jugement derrière ces choses. Parce que les Corinthiens mettaient beaucoup, beaucoup l'accent sur ce don du parler en langue. Mais il leur dit, mais ne soyez pas des enfants, comprenez le jugement qu'il y a derrière ces choses. Ensuite, Paul écrit, il décrit le parler en langue, il dit, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, sous-entendu les Juifs. Ce peuple, dans les Écritures, c'est les Juifs. Chaque fois qu'on voit ce peuple, mon peuple, c'est le peuple juif. Mais quel est le malheur? Il dit, c'est qu'ils ne m'écouteront pas même ainsi. Donc, les Juifs n'ont pas écouté le Fils de Dieu quand il est venu leur parler. Ensuite, Dieu leur a parlé au travers de langues étrangères et ils n'ont pas même écouté. Ils n'ont pas encore voulu recevoir ce que Dieu était en train de leur dire. Ça, c'est l'interprétation de ce passage, de ces deux versets. Et si dans la réception du Saint-Esprit, ce jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, Dieu a opéré un miracle par le don des langues, la raison que l'Écriture nous impose, c'est que c'était pour le peuple juif. C'était pour parler aux Juifs. Regardez dans Actes 2, verset 5. Donc ici, on est juste après la mention des langues. Donc il dit qu'il va leur donner de s'exprimer, il leur donnait de s'exprimer en d'autres langues. Et il dit verset 5, « Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. » Et c'est important, c'est que Dieu n'a pas choisi d'envoyer son esprit, de baptiser son église une semaine avant ou une semaine après. Il a choisi ce jour de Pentecôte parce que il y avait un signe au travers de la fête en elle-même, mais aussi parce que il y avait des milliers et des milliers de Juifs qui étaient venus fêter la fête de Pentecôte, donc la fête juive. Et donc la ville de Jérusalem était remplie de Juifs de toutes les nations, de partout. Alors, ce jour-là, c'était le moment de baptiser son Église dans l'Esprit et ce fut un miracle incroyable. De verset 4, il dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc la réception du Saint-Esprit ici fut accompagnée d'un miracle. Ils avaient la capacité de parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises, jamais apprises. Donc il leur a donné la capacité de parler des langues étrangères. Et je souligne ce mot « étrangère ». Parce que le but de ce miracle, c'était justement de toucher le cœur des Juifs qui étaient durs. Et Dieu voulait leur montrer, mais regardez maintenant, eh bien, on loue Dieu dans des langues étrangères, dans des langues autres que l'hébreu ou que l'araméen. Pour les Juifs, la seule langue dans laquelle on pouvait louer Dieu, c'était bien sûr la langue de la Bible, c'était les Écritures. Il semble que les Juifs de l'époque du Seigneur avaient la langue des Écritures, l'hébreu, et puis ils avaient l'araméen, qu'ils avaient appris à pratiquer plus que l'hébreu, et qui avait même supplanté l'hébreu dans l'oral, et donc on parlait l'araméen couramment. Et puis quand on allait dans les synagogues, et là on lisait les rouleaux, et là on lisait l'hébreu, on chantait les psaumes en hébreu, et on adorait l'Éternel en hébreu. Mais ici, Dieu va bouleverser cet état de fait, puisque Dieu se tourne vers les païens, il leur en donne un signe très fort. D'un seul coup, eh bien, les louanges montent vers l'Éternel dans des langues étrangères. Versets 6 à 11, on peut les relire. « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous ? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, parthe, mède, élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» C'est la surprise, c'est l'incompréhension. Comment ces Juifs de Palestine sont capables d'un seul coup de louer Dieu dans les langues maternelles, nos langues maternelles? Ça fait penser à un autre événement, c'est la tour de Babel. Où là, d'un seul coup, hop, pareil quoi. On s'est mis à parler dans plein de langues différentes. Et souvenez-vous, hein, référence d'un jugement aussi, ce jour-là. Et lorsque la multitude s'amassait pour aller pour cette fête, d'un seul coup, ils ont entendu toutes ces merveilles de Dieu qui montaient dans toutes ces langues. Et à ce moment-là, Dieu saisit l'esprit de l'apôtre Pierre, verset 14. « Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Regardez verset 22. « Hommes, israélites, écoutez ces paroles. » Verset 29. « Hommes, frères, sous-entendu les juifs, encore une fois, il leur parle. » Donc on voit Pierre qui s'adresse aux juifs parce que ce miracle était pour les juifs et les juifs non-croyants, Paul le dit en 1 Corinthiens chapitre 14. Les juifs non-croyants. C'est quelque chose qu'on voit aussi qui se confirme un petit peu plus loin dans les Actes avec l'histoire de Corneille. Vous vous souvenez donc, l'apôtre Pierre, après ça, c'était encore difficile pour lui d'imaginer que Dieu se tourne vers les païens comme ça. Pourtant, il avait entendu l'ordre de mission, aller vers toutes les nations, mais c'était encore difficile. Alors Dieu fait descendre une nappe avec plein d'animaux impurs, et Dieu lui dit, tue et mange. Et choqué, et puis encore une fois, tue et mange. Et puis après, eh bien, on vient le chercher. Et il se retrouve avec Corneille et les gens de sa maison. Et là, il va comprendre. Et regardez, acte 10, 43 à 48. Il dit, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Important ce verset. Hein? « Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés en son nom. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et je vous pose la question, à qui servit le signe du parler en langue ce jour-là? quand on lit le texte, aux Juifs qui étaient avec Pierre et même à Pierre lui-même, il est écrit « Tous les fidèles circoncis furent étonnés ». D'un seul coup, c'est « Ah, mais alors oui, c'est bien vrai, c'est bien vrai, il loue Dieu au travers d'un miracle par le don du parler en langue ». Donc, la raison, c'est toucher le cœur des circoncis, le cœur des Juifs qui étaient incrédules, qui avaient du mal à le croire. Et il fallait qu'ils le comprennent. Oui, Dieu se tourne vers les païens. C'est très important de comprendre cela parce que c'est ce que la Bible enseigne. Ça, c'est le signe. Ensuite, le don avait été donné. C'était des louanges qui montaient vers Dieu. Alors, eh bien, Dieu ne se rompant pas de ses dons et ses appels. Quand Dieu donne un don, il le donne. Et il le donne jusqu'à la fin de la vie. Et donc, après, eh bien, ce signe qui avait été donné était pratiqué dans les églises. Forcément, il louait Dieu en parthe, en mède, en élamite. Alors, c'est pour cela qu'après, il est dit qu'il y ait interprétation, c'est-à-dire qu'il y ait traduction. Sinon, ça ne sert à rien. Le but, c'est l'édification commune. C'est notre don doit servir à l'édification, sinon ça ne sert pas. Dieu veut que ça serve à l'édification, toujours. Alors, eh bien, après, c'est pour ça qu'il a imposé l'interprétation, pour que ce don, au départ, eh bien, puisse servir. Maintenant, posons-nous cette question. Qu'est-ce que le don du parler en langue? C'est la capacité, on l'a dit, donc, de parler des langues étrangères que l'on n'a pas apprises. En Actes 2, 4, on lit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit, pardon, leur donnait de s'exprimer. » Ici, vous avez le mot « langue », « en d'autres langues ». Et le mot ici traduit, donc c'est la traduction du mot grec « glossa ». Donc, vous connaissez ce mot, hein, ça a donné « glossolalie ». Donc, « glossa ». Il parlait des « glossa ». Quels étaient ces « glossa » ? Mais c'est le verset 6 qui le dit. « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. » Et ici, c'est intéressant parce que ce n'est pas le même mot. C'est plus « glossa », mais c'est « dialectos ». Chacun les entendait parler dans son dialecte. Qu'est-ce que glossa? Eh bien, c'est le fait de parler des dialectos, des langues étrangères, des langues que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais apprises. Le parler en langue, c'est rien d'autre que cela. Alors, avez-vous le don de parler en langue? Si vous l'avez, vous avez la capacité de parler en japonais, en russe ou en chinois et de louer Dieu. Ça, c'est le parler en langue. C'est ce que nous enseigne ce passage des Actes. Et le parler en langue, quand on lit les Actes, c'est très clair. Le parler en langue au commencement n'était pas une suite de sons bizarres, de répétitions de syllabes ou de sons inarticulés. Et parfois même dans des endroits extrêmes, c'est des vociférations, des choses inquiétantes. C'est pas ça. C'était pas du tout ça dans les Actes, c'était des langues étrangères, c'est écrit. On a dit que le mot grec dans Actes 2, 4 est glossa. Ici, acte, glossa. Quand on arrive dans la seule épître qui nous parle du don des langues, le mot est glossa. C'est le même mot, glossa. Parfois, on entend dire, oui, mais en fait, il dit glossa. Il ne dit pas xénoglossa. Parce que on veut dire que si ça avait été réellement ce don des langues étrangères, eh bien, il aurait dit xénoglossa, donc c'est la signification langues étrangères. Mais Actes nous dit ce que c'est glossa. C'est des dialectes, voilà, des langues étrangères. Il n'y avait pas besoin d'utiliser le mot xénoglossa. Et c'est le même mot. Il n'y a pas deux glossas. C'est la glossa. Alors, quel était le problème des Corinthiens? C'est que ceux qui avaient reçu ce don miraculeux, du parler en langue parlaient en même temps des dialectes inconnus des Corinthiens dans leur église et inconnus des Juifs aussi qui étaient là et qui étaient à Corinthe. Donc c'était la cacophonie, vraiment la cacophonie dans l'église. On parlait le parthe, l'élamite, le grec, le mède, et tout en même temps, et tout le monde parlait comme ça, louait Dieu, et plus personne ne pouvait comprendre quoi que ce soit dans cette église. À noter que le livre des Actes fut écrit après l'épître aux Corinthiens. Et donc, Luc, qui a voyagé avec Paul, qui connaissait bien Paul, connaissait aussi tout l'enseignement de Paul sur le parler en langue. Hein. C'était très clair. Et donc, quand on lit les Écritures, il n'y a aucun passage qui fait une distinction en disant, attention, il y a le parler en langue des langues étrangères, le parler en langue, une langue mystérieuse. Il n'y a pas de passage qui fait cette distinction. C'est glossa, glossa, c'est la même chose. La même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parfois, quand on entend dans certains mouvements ou églises? En s'appuyant sur une hypothèse et en s'appuyant sur une révélation mystérieuse, certains se sont mis à penser parler la langue des anges. Alors, premièrement, l'hypothèse. Qu'est-ce que l'hypothèse? L'hypothèse, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1. 1 Corinthiens 13, verset 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. » Donc cette phrase a soulevé la question de la langue des anges. Et Paul ne dit pas qu'il parle une telle langue, mais que s'il parlait, s'il venait à parler une langue, même toutes les langues des hommes et la langue des anges, s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Après, il parle de savoir toute la connaissance, tous les mystères. Est-ce qu'il avait ça? Non, il n'avait pas ça. Mais à chaque fois, il le fait en contraste pour montrer que s'il n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. On peut avoir tout, mais si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, c'est une hypothèse. Si, quand, voilà, c'est du conditionnel. Ensuite, on lit en 2 Corinthiens que Paul est monté au troisième ciel et que, voilà, il ne savait pas si c'était hors de son corps ou dans son corps, mais il s'est retrouvé dans le ciel. Et là, il a entendu des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc là encore, on se dit... Langue des anges ici, des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Mais c'est intéressant parce qu'il dit qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc, même un homme ne peut pas les dire, ne peut pas les parler. Donc, ça clôt le débat ici. Ça clôt le débat. Mais le problème, c'est que ces petites allusions, des allusions, ce n'est pas un enseignement clairement dit, c'est des allusions à une langue céleste ont été prises très au sérieux par certaines personnes. Et sous couvert de l'expression « parler en langue », on a vu soudain fleurir un enchaînement de sons et de syllabes répétitives qu'on nomme aujourd'hui la glossolalie ou la langue des anges. Comment on arrive à cela? Je pense qu'on y arrive en essayant et en y croyant et en pratiquant. On essaye, on y croit et on le pratique. Dans un article, je ne vous donne pas la dénomination, mais on peut lire, il faut que dans la glossolalie, le croyant coopère avec le Saint-Esprit. Donc voilà, on essaye, on se lance. Un autre pasteur dira, ne cherchez pas un sens à ce que vous dites. Pour vous, il ne s'agit que d'une suite de sons. Les premiers vous paraîtront étranges et insolites, hésitants, inarticulés. Avez-vous déjà remarqué comment un bébé apprend à parler? Et finalement, on peut tous parler en langue, dans le sens où on peut tous faire une suite de sons comme ça. C'est notre faculté, notre capacité. Il suffit de pratiquer. Et je voudrais pas qu'on se méprenne sur l'explication que je donne ce matin. Je ne veux pas juger, je ne veux pas me moquer, je ne veux pas dénigrer, loin de moi. Et croyez-moi, j'aime tous mes frères, hein, je les aime, mais je pense qu'on peut aussi être sincèrement dans l'erreur. On peut être sincèrement dans l'erreur. Voilà, ça arrive. Et je n'ai de cesse de dire aussi que je crois qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui ne s'est pas trompé quelque part. Partout, il y a quelque chose, c'est clair. Hein. Même on en parlait avec Tristan, hein. On lit un livre, un homme de Dieu, mais incroyable. Et puis on voit quelque chose, on dit, mais c'est pas possible. Comment, pour nous, ça semble évident. Alors, ben, probablement, moi aussi, et tous les hommes, et voilà, on se trompe, peut-être pour nous garder dans l'humilité, et que, ben voilà, on ne sait pas tout. Alors, eh bien, on peut se tromper, et ça n'empêche pas de vivre sa vie chrétienne pour le Seigneur, de l'aimer, et de l'adorer, et de le servir, et de le glorifier avec zèle. Mais on peut être sincèrement dans l'erreur, hein. Et parce qu'il y a une mauvaise compréhension des Écritures sur un domaine, sur un point, hop, on prend un virage. On commence à prendre un virage. Regardez 1 Corinthiens 14, verset 5. Il dit « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. » On lit ici que Paul désire que tous parlent en langue. C'est écrit. Il désire que tous parlent en langue. Donc si je reste avec ce verset, je comprends que Dieu veut que moi aussi, je parle en langue. Paul est inspiré, il a dit ça, il veut que tous parlent en langue. Donc Dieu le veut. Et si on le lit des dizaines de fois, eh bien, on en arrive à se dire, mais tout enfant de Dieu devrait parler en langue. C'est écrit, c'est écrit. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue. Mais Paul, c'est pas ce que Paul est en train de dire. Il dit simplement qu'il ne voulait pas empêcher de parler en langue. Pourquoi ? Parce que dans ce chapitre, il est en train de reprendre les Corinthiens très sérieusement et leur disant, mais stop, arrêtez de parler en langue. Si c'est pour faire comme vous faites, arrêtez de parler en langue, c'est la cacophonie, personne n'est édifié. Et donc, il ne veut pas qu'on se trompe sur ce qu'il est en train de dire et qu'on croit qu'il veut empêcher les gens de pratiquer le don qu'ils ont reçu de Dieu. Donc, il leur dit, moi, je veux que tous vous parliez en langue. Voyez ? Mais pour qu'on en reçoive de l'édification. Mais il n'est pas en train de dire que sa volonté, c'est réellement que tout le monde parle en langue et que donc Dieu veut que tous parlent en langue. La preuve, regardez, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30. « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Réponse est non. Tous sont-ils prophètes ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Tous ont-ils le don des miracles ? Non. Tous ont-ils le don des guérisons ? Non. Tous parlent-ils en langue ? Non. Tous interprètent-ils ? Non. Dieu n'accorde pas tous les dons à tous. Et on n'est pas appelé forcément à recevoir les mêmes dons. Mais pourtant, l'enseignement que tous devraient parler en langue perdure dans les églises ou dans certaines églises. On continue à dire, et je l'ai encore entendu en regardant un petit peu hier soir, hein, on dit, mais Dieu veut que vous parliez en langue. Il veut que tous parlent en langue. Et vous voyez, on prend un verset et on ne prend pas tout. Et on s'écarte, on est sincère, mais là, voilà, un virage, un virage. Et si on s'écarte sur un verset, ben on peut aussi s'écarter sur d'autres versets. Une pratique courante du parler en langue dans les assemblées, c'est que le parler en langue que l'on dit adresse un message aux hommes. Donc, il y a quelqu'un qui parle en glossolalie. Des sons sortent de sa bouche, quelqu'un interprète, et ça donne par exemple quelque chose comme ça. Le Seigneur dit que celui qui a des problèmes de convoitise dans sa vie prenne garde, car Dieu jugera les débauchés et les infidèles. Donnez du pain à celui qui a faim, souciez-vous des malheureux et vous serez bénis. Admettons, c'est la traduction. Mais là encore, gros problème. Gros problème, parce que ça n'a rien à voir avec le parler en langue des Écritures. Dans le livre des Actes, quand on a lu, il parlait des merveilles de Dieu. Ils n'étaient pas en train d'adresser un message aux Juifs qui venaient d'ailleurs. Ils étaient en train de louer Dieu, de parler des merveilles de Dieu. Regardez 1 Corinthiens 14, 2. 1 Corinthiens 14, 2 dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Quand on lit ce verset, ce qui attire l'attention, c'est la seconde partie, pour venir justifier que c'est une langue mystérieuse. Alors on se focalise sur « personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Ça y est, on se focalise sur ça. Mais on ne fait plus attention à la première partie du verset qui dit « celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. » C'est à Dieu qu'il parle. Et les parler en langue authentique, eh bien s'adresser uniquement à Dieu. C'était toujours une louange pour Dieu seul. La personne bénissait Dieu dans une langue qu'elle n'avait pas apprise. Et donc en cela, elle disait forcément des mystères. Personne ne la comprenait. Parce que ce n'était pas forcément la langue de la personne qui écoutait. Si on le transposait aujourd'hui, ce serait une personne dans notre assemblée qui se mette à louer Dieu en suédois. Et puis qu'elle dise... Bon, en suédois, hein, vous ne comprenez pas, mais « Seigneur des cieux et de la terre, hein, sois exalté pour ton nom béni. Tu es digne, Seigneur, d'être adoré pour ta bonté, pour tes merveilles. Merci, mon Dieu, d'être ressuscité d'entre les morts. Gloire te soit rendue. » C'est un mystère. On ne comprend pas, parce qu'on ne comprend pas la langue suédoise. Imaginez ce jour de Pentecôte. Les 120 disciples se sont mis à louer Dieu dans une quinzaine, en tout cas répertorié, de dialectes différents. Et ça montait, c'était des langues très distinctes, très claires, très précises, et des louanges inspirées, merveilleuses, qui étaient données dans la profusion de l'Esprit, dans le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tous les Juifs qui venaient de ces pays entendaient ces louanges qui montaient vers Dieu dans leur langue natale. Je ne sais pas, je pense peut-être, ils ont dit, mais ne sont-ils pas tous galiléens ? Donc, peut-être ils les reconnaissaient par leur tenue vestimentaire, ou ils ont vu en tout cas que c'était des Juifs qui étaient d'ici et qui n'étaient jamais allés dans tout leur pays. Alors, c'était la surprise, l'étonnement. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Pour ceux qui comprenaient, c'est ce qu'ils se disaient. Comment les entendons-nous parler des louanges de Dieu ? Pour ceux qui ne comprenaient pas, ils disaient, ils sont saouls, ils sont pleins de vin doux. Hein, ça ne va pas, ils ont un problème là. Mais on le verra ensemble la semaine prochaine. Le but de Dieu était atteint. Parce que à ce moment-là, alors qu'ils étaient saisis d'entendre les merveilles de Dieu, Pierre va leur prêcher l'évangile. C'est-à-dire, eh bien maintenant écoutez ce que Dieu a à vous dire. Pour conclure ce matin, certains se demandent si le parler en langue existe toujours. Alors, ma position personnelle et la position de l'Église, c'est que le parler en langue, tel qu'on vient de le décrire, il a cessé. Comme le dit 1 Corinthiens 13, je ne vais pas le développer ce matin, faute de temps. Néanmoins, si quelqu'un n'était pas du même avis, alors je pense qu'il devrait rester dans le cadre des Écritures. Et se poser les bonnes questions. Est-ce un parler en langue intelligible, en langue intelligible, humaine, des langues des hommes, comme c'était le cas dans les Actes ? Deuxième question, est-ce un don qui demeure un signe pour les Juifs ? C'était le but du parler en langue. Même si Dieu, après, du fait du don qui avait été donné, s'en est servi pour l'édification, le but, c'était pour parler aux Juifs. Et puis, troisième question, est-ce que c'est une louange exclusivement adressée à Dieu ? Là aussi, une bonne question à se poser. Parce que quand on parle de parler en langue, c'est ça le parler en langue. C'est louer Dieu, point. Pas autre chose. C'est intéressant de voir que Jésus avait tous les dons. Quand vous regardez la personne du Seigneur, il avait le don de prophétie, il avait le don d'enseigner, il avait le don d'évangéliste, hein, le don de pasteur, le don de docteur, le don d'exhortation, le don de libéralité, le don des miracles, le don de guérison, le don de miséricorde. Jésus avait tous les dons, sauf le don du parler en langue, dans ce sens-ci, des Écritures. Non pas qu'il ne pouvait pas, il est Dieu, mais en tout cas, il n'a pas manifesté un tel don. Jésus n'a pas parlé en langue. Pourquoi ? Tout simplement parce que durant son ministère, c'était le moment des Juifs, c'était le temps des Juifs, donc il s'occupait des brebis perdues d'Israël, et ce don des langues n'était pas encore à l'ordre du jour. Il fallait que la nation juive le rejette, et alors, eh bien, il se tournerait vers les païens, et il leur en montrerait le signe par le don des langues, le don du parler en langue. Là, à ce moment-là, le don prenait toute sa signification pour toucher les Juifs. Si le parler en langue était une manière, et peut-être la manière la plus spirituelle pour communier avec Dieu, en parlant une langue céleste, divine, angélique, alors sans aucun doute, Jésus nous aurait montré l'exemple. Il l'aurait fait pour qu'on le fasse. Mais quand il nous a enseigné à prier, il nous a dit de prier avec notre intelligence et de dire des mots distincts, compréhensibles, pour qu'il y ait un sens qui soit donné pour tous, à la fois pour vous et à la fois pour une personne qui écouterait. Il a dit, comment devons-nous prier, Seigneur ? Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Des mots distincts, clairs, édifiants, nourrissants. C'est là où notre louange et notre prière sont non seulement édifiantes pour nos frères et sœurs, mais c'est aussi un témoignage pour ceux qui l'entendent. Si par contre, notre communion avec Dieu se traduit par des sons qui n'ont pas de sens, que les autres ne comprennent pas, que même soi-même, on ne comprend pas, il n'y a pas d'édification. Il n'y a pas d'édification. Alors que faire donc, pour reprendre ce que Paul dit ? Il dit en 1 Corinthiens 14, 15, « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » On va s'incliner dans la prière.